Il est 8h25 sur Radio Panique. Vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube. Et je suis en compagnie de mon invité, Henri Houben. Bienvenue. Merci d'avoir gravi la montagne pour arriver jusque dans le studio de Radio Panique.
Oui, mais bonjour, mais j'ai déjà gravi d'autres montagnes, donc ça va.
C'était pas la plus haute montagne que vous ayez gravi. En tout cas, merci si je vous ai invité aujourd'hui. C'est pour nous parler des deux numéros du Grésé à Écho que vous avez consacrés à Big Pharma. L'un s'intitule « Le profit contre la santé », l'autre « Abus de pouvoir dans la santé ». Et c'est une somme impressionnante de données sur ce secteur qu'on appelle le Big Pharma et qui a des méandres tentaculaires, on va dire, que ce soit au niveau politique, au niveau du secteur médical, de la recherche, au niveau économique. Et donc vous avez entrepris cette grande recherche qui vous a pris pas mal de temps, j'imagine un certain nombre d'années pour arriver à ce résultat. Dites-nous un peu qu'est-ce que Big Pharma et comment on peut appréhender aujourd'hui le secteur pharmaceutique et ce secteur de l'industrie pharmaceutique.
Donc d'abord, il faut préciser que je suis économiste, donc je ne suis pas médecin ou biologiste. Ça c'est quand même un premier point qu'il faut préciser. La seconde, c'est que en fait je me suis intéressé à l'industrie pharmaceutique parce que j'avais constaté dans le cadre de la plupart des multinationales, ce secteur faisait des profits mais phénoménaux. Bien au-delà de tout ce que les autres secteurs pouvaient faire. Parfois, il y a une entreprise dans un autre secteur qui fait beaucoup de profits, mais là, c'était carrément tout le secteur qui le faisait. Et donc, j'ai essayé de pouvoir un peu, regrouper ce qu'on pouvait appeler comme étant le secteur et les principales entreprises du secteur pharmaceutique. Je suis arrivé à 21 sociétés aujourd'hui. Mais comme ces sociétés ont grossi durant les années, je suis arrivé à une cinquantaine de firmes au total dont j'ai essayé d'étudier les performances économiques à travers leur rapport annuel. Donc les 21 sociétés, je les ai choisies évidemment parce qu'elles étaient les plus importantes, mais aussi parce que j'avais des données sur une longue période pour laquelle je pouvais faire une étude, pas simplement aujourd'hui, mais voir comment est-ce que l'évolution avait été faite depuis pratiquement les années 90. Je pouvais parfois remonter jusque aux années 80, mais ça c'était encore plus difficile de le faire. Donc j'ai fait l'étude sur les années 90 jusque maintenant. J'avais déjà auparavant écrit déjà un numéro sur l'industrie pharmaceutique, je crois que c'était en 2013, et qui a été publié aussi au Grésé à Écho.
Et donc, ce qui est marquant dans ce domaine-là, c'est aussi le fait qu'il s'agit d'entreprises qui ont grossi et qui sont de plus en plus énormes et qui jouent aussi avec cette possibilité de rachat, fusion et de réorganisation. Et donc, ça empêche aussi d'avoir une vue claire de qui est qui, de qui fait quoi, de leur taille réelle.
Quand on l'étudie, non, peut-être comme ça, oui, pour le citoyen lambda, d'autant qu'en général, les sociétés qui produisent des vaccins et des médicaments ne mettent qu'en tout petit que c'est produit par telle entreprise. Donc en général, c'est le médicament qu'on voit sur la boîte, mais pas nécessairement le nom. Donc on prend un médicament, mais on ne sait pas nécessairement qui a produit exactement ce médicament-là. Alors, de fait, le secteur a beaucoup évolué. En réalité, ça vient des années 60, parce que les années auparavant, en particulier en 58, il y a eu un accident assez important avec un médicament en Allemagne. Et ce résultat-là a fait que les autorités sanitaires ont dit, voilà, il va falloir mettre en place des procédures pour avoir l'homologation des produits et pas que n'importe quelle entreprise puisse mettre un produit comme ça sur le marché. Dans un premier temps, l'industrie pharmaceutique a essayé de contrecarrer ce projet-là, mais après un certain temps, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était un avantage parce que ça permettait aux entreprises les plus importantes de pouvoir concentrer ce secteur-là. Parce que si on met un processus d'homologation, c'est un processus long, ça veut dire qu'il faut investir des capitaux pendant longtemps avant qu'on puisse en avoir un bénéfice. Donc seules des grosses entreprises peuvent effectivement faire ce genre de travail-là. Et donc à partir de là, donc à partir des années 70, 80, 90, il y a eu un processus de concentration énorme qui a fait que ce qu'on pouvait encore appeler éventuellement des laboratoires dans les années 50, 60, sont devenus aujourd'hui des véritables grosses multinationales.
Et justement, c'est ce qui cette question du délai et de la durée avant de pouvoir être rentable, ça justifie aussi toute une série d'agissements des multinationales pharmaceutiques en termes de brevetage, d'accaparement des profits et de...
Non, ça c'est un autre processus. Donc le processus vient du fait que on a accordé, ben justement aussi parce qu'effectivement il y avait un temps assez long pour pouvoir mettre en place un médicament qui était homologué, on a accordé à ces entreprises, à partir du moment où on dépose un brevet sur des molécules, on a 20 ans d'exclusivité. 20 ans qui peuvent être éventuellement prolongés pour 5 ou 7 ans en fonction de cas particuliers, etc. Et donc, normalement, le processus d'homologation, ça prend entre 8 et 12 ans, donc ça veut dire en moyenne une petite dizaine d'années, et ça laisse une dizaine d'années pour l'entreprise pour pouvoir faire le maximum de bénéfices avec un produit sur lequel il n'y a pas de concurrence. Hein. Donc là, c'est un monopole pur. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, ces multinationales vont essayer d'imposer des prix de plus en plus élevés. Et c'est ça qui va faire en sorte que ces entreprises font énormément de profits.
Et donc justement pour revenir, parce que c'est effectivement un sujet très compliqué et d'où l'utilité de ce travail que vous avez fait pour pouvoir dénouer un peu les chevaux de ce système. Justement, vous mettez en avant le fait qu'il y a ce processus justement d'homologation qui est très long, donc avant de pouvoir sortir ce médicament. Mais après, vous dites justement que la question du profit qui en est tiré est un processus séparé. Comment vous pouvez dénouer un peu pour les auditeurs et auditrices ces différents aspects et expliquer aussi justement que une des critiques fondamentales qu'on peut faire aux entreprises pharmaceutiques, c'est de s'accaparer le profit et de ne pas toujours réinvestir adéquatement dans la recherche fondamentale. Et donc, il y a aussi des liens qui sont parfois obscurs entre la recherche, entre ces entreprises, qui ne sont pas toujours clairement compris par le citoyen lambda, comme on dit. Comment on peut l'expliquer ?
Alors, ce processus a changé. Donc, c'est vrai que auparavant, disons, la multinationale faisait à peu près tout. Donc, il faisait la recherche, découvrait des molécules, faisait homologuer les molécules, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, aujourd'hui, la recherche fondamentale est effectuée essentiellement par des laboratoires publics. De temps en temps, il y a les laboratoires privés qui continuent aussi de la recherche, mais normalement, aujourd'hui, c'est de plus en plus les laboratoires publics qui font la recherche, qui donc découvrent les molécules, vont faire breveter ces molécules. À partir de là, souvent, les chercheurs qui sont liés à cette découverte vont créer ce qu'on appelle une start-up. Donc une entreprise qui apparaît, c'est ça la notion de start-up, en biotechnologie, puisque actuellement c'est surtout au niveau de la biotechnologie que se font les principales découvertes. Et puis là, lorsqu'ils ont le médicament, ils doivent le faire tester. Et là commencent les ennuis pour une start-up, parce que effectivement c'est là que ça va durer beaucoup de temps, et c'est là que les capitaux évidemment vont être absolument indispensables, et les gens qui ont créé la start-up n'ont pas nécessairement ces capitaux. Donc c'est là que les multinationales vont commencer à agir. Et si vous regardez d'ailleurs les sites actuels des principales multinationales, vous verrez, c'est pas en première page, mais vous devez un peu chercher, mais sinon il y a toujours une page consacrée au partenariat entre le public, donc c'est surtout les universités, les entreprises liées, donc c'est-à-dire des start-up avec lesquelles ils ont des contacts, et ces multinationales-là. Et donc ce partenariat-là va faire en sorte que la multinationale va être au courant que telle start-up a un projet qui peut être effectivement très prometteur. Donc parfois, c'est pas un projet banal. Et en fonction de ça, la multinationale va adapter son comportement. Si le projet est très prometteur, il risque de racheter directement la start-up. Donc c'est-à-dire qu'il va la racheter parce que c'est effectivement, normalement, ça devrait découler sur beaucoup de bénéfices et donc là, il la rachète. Si c'est pas le cas, ils vont faire des partenariats plus souples et moins participatifs. Mais donc, la période d'essai consiste en quatre phases. D'abord, il y a ce qu'on appelle les essais précliniques, c'est-à-dire essentiellement les essais avec des animaux. Puis, on va passer aux essais avec les êtres humains, qui sont en trois phases. Première phase, on va vérifier avec un petit groupe le dosage du médicament. Dans la phase 2, on va voir s'il y a des effets secondaires. Et la phase 3, c'est la grande phase où on va rassembler au minimum une dizaine de milliers de personnes, donc un grand groupe, pour lequel on va administrer, on va couper ce grand groupe en deux. À l'un des deux groupes, on va administrer le médicament, et à l'autre, on va administrer un placebo, et on va voir si effectivement le médicament a des effets différents et positifs par rapport au placebo. Et une fois qu'on a fait cette procédure-là, on va passer à l'homologation. Alors là, de nouveau, la multinationale a des avantages parce que normalement, elle homologue beaucoup de produits, donc elle a des contacts beaucoup plus faciles avec les autorités sanitaires. Néanmoins, normalement, ça dure entre 1 an et 3 ans, l'homologation des produits, parce que normalement, l'autorité sanitaire va reprendre les études pour voir si effectivement ça a été bien fait. Donc aux États-Unis en général ça va plus vite et en Europe ça va plus lentement. Et une fois que c'est fait, alors ils vont commencer la commercialisation. Mais là de nouveau pour une start-up c'est difficile parce que la commercialisation d'un médicament c'est pas un produit banal. Donc il y a certains médicaments qui sont en vente libre. Donc là c'est la publicité qui va permettre de faire connaître le produit. Mais si c'est un médicament prescrit, c'est pas la publicité qui va faire vendre, c'est la tournée des centres médicaux et des hôpitaux et des médecins particuliers. Donc ça demande une force en homme extrêmement importante que seules des multinationales disposent. Donc à chaque étape, au fur et à mesure, la multinationale a la possibilité d'intervenir et de prendre le contrôle du produit qui est fait et qui a été élaboré au départ par des laboratoires universitaires et puis par des start-up.
Et donc ce que vous montrez là, ça montre bien aussi que à chaque étape du processus, on va dire, il peut y avoir ce qu'on pourrait appeler un conflit d'intérêts ou en tout cas une collusion entre chaque acteur. Et donc au niveau de la recherche fondamentale qui est, comme vous l'avez dit, effectuée dans les centres de recherche publics, souvent financés par les États, donc à cet endroit-là aussi déjà on peut constater que les industries interviennent pour le choix des thématiques de recherche, des sujets de recherche.
Tout à fait. Les multinationales pharmaceutiques sont partout, elles sont partout. Elles forment toujours des associations, des partenariats. Donc elles ont un éventail de d'interventions qui est vraiment phénoménal. Et donc à chaque endroit ils peuvent avoir leur capacité d'influence. Pardon.
Et donc c'est ça aussi, on est englué en fait dans ce système, parce que c'est difficile de se dire, même si on arrivait à se désengluer d'un côté, on retomberait directement de l'autre, que ce soit si on arrivait à avoir une recherche autonome au niveau de la recherche fondamentale, mais on se retrouverait avec ces colporteurs, on va dire, de l'industrie pharmaceutique qui vont chez les médecins, dans les hôpitaux pour vendre leurs produits.
Chez les étudiants aussi.
Chez les étudiants aussi. Comment pourrait-ce... quelle issue?
Ouais, je pense que un des points centraux doit être que normalement on redécouvre et on reformule des initiatives de production publique. En fait, lors du Covid, c'est ce qui s'est passé. Parce que, pour des différentes raisons, il y a eu des pénuries de médicaments, et encore, mais c'est pour d'autres raisons, mais là, c'était avec le Covid. Il y avait des pénuries de médicaments particuliers dont on n'avait plus les substances nécessaires pour fabriquer les médicaments, et plusieurs hôpitaux se sont mis à produire eux-mêmes des médicaments dont ils avaient besoin pour leurs patients. Et donc, ça montre que c'est tout à fait possible. Et évidemment, ici, c'est très, très limité et très particulier. Mais on pourrait effectivement avoir une production publique beaucoup plus importante. Et de ce fait-là, faire en sorte que l'argent public qui est versé pour les centres universitaires au départ finisse par une production publique pour des médicaments qui sont des médicaments centraux pour la santé des gens. Et effectivement, les vendre à un coût qui peut être assez bas. Ici, en Europe, on ne voit pas tellement l'effet du prix des médicaments parce que, évidemment, on a des systèmes de sécurité sociale, mais en réalité, ce sont ces systèmes de sécurité sociale qui achètent les médicaments au prix fort. Donc, nous, on voit que le prix, éventuellement, il est fortement atténué, mais normalement, ces médicaments-là sont vendus vraiment au prix fort, et c'est la sécurité sociale qui en paye l'essentiel.
Et justement, par rapport à ça, dans un des articles du deuxième volume, vous montrez aussi... justement, les manipulations qu'il peut y avoir, justement dans la détermination des prix, et vous évoquez des médicaments qui sont vendus à un certain prix ici, 40 fois plus dans d'autres pays. Tout ça aussi, ça montre que l'industrie pharmaceutique est aussi au centre de différents scandales qui ont eu lieu ces dernières années, ces dernières décennies, certains plus connus que d'autres, on va dire. On a tous en tête la question du Mediator et d'autres médicaments. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ces affaires-là et sur comment ça a été possible, notamment par exemple toute l'influence d'une entreprise pharmaceutique sur la dépendance aux opioïdes aux États-Unis.
Oui, il y a toute une série de scandales qui sont arrivés parce que normalement, ce que essayent de faire les multinationales aujourd'hui, c'est ne pas s'impliquer trop dans le processus de fabrication du médicament parce que ça, c'est extrêmement aléatoire. Donc, c'est-à-dire que il y a en fait beaucoup de molécules qui sont découvertes, mais au total, il y a très peu de médicaments qui viennent de ce nombre de molécules. Donc c'est très aléatoire, donc ils essayent de se dégager le plus possible de ça et d'investir le moins possible et de n'investir vraiment que dans des formules qui sont pratiquement sûres de bien marcher. Mais une fois que le processus est terminé, que le médicament est sur le marché, les multinationales vont tout faire pour à la fois garantir que le brevet va s'appliquer, et donc que la multinationale va pouvoir imposer ses prix, et ce, le plus longtemps possible. Et donc, dès qu'il y a un problème, parce que effectivement, Normalement, les tests peuvent s'avérer. Là, parfois, les tests sont d'ailleurs un peu faussés parce que les multinationales ont parfois tellement intérêt à ce que les tests soient bons qu'ils arrivent à un peu chipoter et donc les experts disent même eux-mêmes que on n'est pas sûr à 100% que tous ces tests sont valides totalement. Donc il peut y avoir des effets qui sont pas bien détectés, mais qui sont détectés une fois que le médicament est pris de manière massive. Mais à ce moment-là, l'industrie pharmaceutique va utiliser toutes les techniques possibles et imaginables, notamment, ce qui est quand même assez scandaleux, c'est le fait qu'ils ont des très bons contacts en général avec les experts qui sont choisis par les autorités sanitaires pour dire si un médicament est bon et mauvais. Donc c'est ça qui, par exemple, au médiateur s'est passé, c'est-à-dire que la plupart des experts de l'autorité sanitaire française a dit « Non, il n'y a pas de problème, le médiateur est très bien, il n'y a pas de souci, c'est pas lui qui cause le problème ». Une autre technique, c'est comme en fait, c'est utiliser la technique qui a été utilisée par l'industrie du tabac, c'est-à-dire de publier. Donc une fois qu'il y a une étude qui dit voilà tel médicament cause tel problème, eh bien automatiquement on va demander à certains chercheurs de publier des articles qui disent exactement le contraire. Alors, peu importe si ces articles sont vraiment bien fondés, le principe est de susciter le doute chez le public, et en particulier aussi chez les médecins, qui n'ont pas toujours la possibilité eux-mêmes d'aller vérifier si, effectivement, telle procédure a été convenablement testée ou pas. Et donc, pendant tout ce temps-là, évidemment, le médicament est toujours vendu. Et c'est ça qui fait en sorte que certains médicaments donc sont utilisés et viennent dans des séries de scandales. Dans le cas des opioïdes, c'est autre chose encore. C'est le fait que normalement tout le monde sait que les opioïdes peuvent être utilisés dans certains cas pour des maladies extrêmement graves, pour alléger la souffrance des patients. Mais évidemment, ce n'est pas à utiliser tout azimut. Donc, en fait, il aurait fallu mettre un haut là. Mais l'entreprise Purdue Pharma, qui a lancé ces médicaments-là, a fait exactement le contraire. Il a été partout chez les médecins en disant que le médicament n'était pas du tout addictif, etc., et qu'il n'y a pas de problème, qu'on pouvait l'administrer presque à n'importe qui. Donc si quelqu'un avait quelques douleurs au dos, hop, on pouvait lui foutre un opioïde, il n'y avait pas de problème. Et évidemment, ça ne s'est pas avéré exact. Et donc la firme, finalement, a dû quand même payer beaucoup. Mmh. Et sa réputation, là, elle est complètement ternie. Hein. Donc je crois qu'ils ont changé de nom, depuis lors, pour éviter d'être associés à ce scandale.
Et c'est des chiffres faramineux. Vous évoquez ici 650 000 ordonnances par jour de produits de ce type. Donc on imagine bien l'épidémie... de dépendance aussi.
Tout à fait.
Et qui le problème étant que ça a amené un certain nombre de personnes à consommer.
Parce qu'à partir du moment où ils utilisaient ces médicaments, au contraire de ce que disait Purdue Pharma, ces médicaments sont addictifs. Et donc, une fois que, même si le médecin dit on arrête le traitement, la personne est dépendante de ce type de produit et donc va aller chercher ailleurs. Et donc, on va aller chercher chez des dealers. Et c'est comme ça que l'épidémie arrive et le scandale arrive.
Et justement, vous avez évoqué à plusieurs moments la dépendance avec les experts. Et donc, les experts des gouvernements, que ce soit en Belgique ou en France ou ailleurs, qui disent non, c'est un bon médicament, ou il n'y a pas de souci.
Certains experts, hein, on peut pas dire que tous les experts sont comme ça, mais certains experts
sont ça. Mais c'est une problématique.
Ah, c'est tout à fait. Normalement, en principe, d'ailleurs, c'est toujours pas bien réglé parce que la question des experts, c'est qu'ils doivent officiellement déposer les conflits potentiels, les conflits d'intérêts potentiels qu'ils ont avec l'industrie pharmaceutique. Et normalement, s'il y a un conflit d'intérêts potentiel, si cette personne est choisie comme experte, eh bien, elle doit se dégager du processus de décision vis-à-vis de ce médicament, enfin du médicament de l'entreprise avec lequel l'expert pourrait avoir des U ou A. Encore des contacts. C'est normalement comme ça que ça doit se passer. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça, parce que la publicité, déjà, est extrêmement difficile à obtenir. Il n'y a grosso modo que essentiellement deux pays qui ont vraiment une transparence assez avancée, c'est les États-Unis et la France. La France parce qu'il y a, il y a eu le scandale du Mediator, donc là ils ont fait beaucoup de progrès. Du côté européen, par contre, c'est pas du tout le cas. Les autorités européennes ont accepté l'accord qui a été proposé par le lobby pharmaceutique européen, donc FPIA, l'FPIA. Qui a dit que normalement ça devait se faire de manière volontaire. Donc c'est-à-dire que ce sont les médecins qui volontairement doivent donner leur conflit d'intérêts et où les multinationales dire on paye tel expert pour telle et telle chose, mais on voit que ça marche pas du tout. En Belgique, il y a un site qui a été fait. Normalement, on devrait théoriquement pouvoir savoir si tel médecin a des contacts avec. Mais c'est un site hyper difficile à consulter. Moi, personnellement, j'ai essayé, je n'y suis pas parvenu. Et sur cette base-là, il y a quatre journaux l'année passée qui avaient fait une enquête et qui avaient révélé des choses absolument invraisemblables, notamment que les choses qui étaient mises en ligne n'étaient pas nécessairement correctes. Ils avaient remarqué qu'il y avait des erreurs et constaté que personne ne contrôlait. C'est-à-dire que les acteurs pouvaient mettre ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas de contrôle, puisque la société qui contrôle le site n'est pas responsable et que les autorités sanitaires disent que c'est pas leur priorité, donc ils vont pas faire le contrôle. Donc ça veut dire que grosso modo, on peut raconter ce qu'on veut. Il y a pratiquement pas de contrôle.
Dans un de vos articles sur cette question-là, sur les experts, vous citez quelqu'un qui évoque le fait que un ancien vice-président de Pfizer, qu'il s'agit vraiment d'une mafia, en fait. Oui. Enfin, qu'on peut faire des liens entre le secteur pharmaceutique et la mafia.
Il fait effectivement ce rapprochement. Il y a d'autres choses comme ça, petits détails qui montrent qu'effectivement, les gens, y compris dans le secteur, savent plus ou moins comment ça fonctionne et que ça fonctionne suivant des procédures qui n'ont rien de très glorieuses, on va dire ça comme ça.
Et justement, le problème aussi, c'est que plusieurs noms, enfin, vous citez à certains endroits Maggie de Blocq, mais d'autres ministres ou membres du gouvernement ont eu des liens réels avec l'industrie pharmaceutique en étant aussi à des postes politiques, donc où ils sont censés défendre le bien commun et pas le bien d'une entreprise pharmaceutique. Donc en Belgique, en quelques mots, parce que le temps file, comment ça se négocie aussi ce prix des médicaments? Quel médicament pourra être mis sur le marché? Est-ce que ça se passe au niveau national? Est-ce que c'est plutôt au niveau européen, en Europe? Quels ont été... Quel est le lien qu'on pourrait faire avec ça et aussi ce qu'on a évoqué tout à l'heure très très brièvement, la question des pénuries des médicaments qui sont encore là actuellement. Il y a on voit qu'il y a de nombreux médicaments, parfois certains fort consommés, qui sont en pénurie. Comment éclairer ça, cette problématique là?
Alors, primo, je vais pas faire un procès à ou avoir un procès avec Maggie de Bloch, je n'ai pas trouvé de lien direct entre Maggie de Bloch et l'industrie pharmaceutique. C'est plutôt ses collaborateurs qui ont eu des contacts, et notamment la personne qui s'occupait de fixer les prix avec l'industrie pharmaceutique, qui va après dans une entreprise pharmaceutique. Évidemment, ça fait un peu bizarre, quoi. On peut avoir tous les soupçons qu'on veut. Mais donc, l'homologation des médicaments, jusqu'il y a peu, c'était encore les autorités nationales qui le faisaient, mais de plus en plus, c'est l'autorité sanitaire européenne qui fait l'homologation pour l'ensemble de l'Union européenne. Puis, le prix, par contre, ça va se fixer souvent au niveau national. Et donc, on va pas avoir les mêmes prix en Italie, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Donc là, il y a une négociation qui est faite, je pense, pays par pays. Mais j'en sais pas beaucoup plus. Hein. Je n'ai pas vraiment étudié cette question-là. Alors, sur la question des pénuries, ça, c'est encore un problème beaucoup plus vaste, parce que ça vient de la logique même dans laquelle j'ai expliqué comment est-ce que les multinationales aujourd'hui fonctionnent. Et comme j'ai dit, les multinationales veulent se dégager le plus possible de tout ce qui n'est pas le plus rentable. Et donc, qu'est-ce qui est le plus rentable? C'est de mettre sur le marché des nouveaux produits qui bénéficient des brevets et qui donc sont protégés et vont pouvoir être vendus à des prix extrêmement élevés. Le problème des médicaments qui viennent en pénurie, c'est pas ce genre de médicaments-là. Les médicaments qui viennent en pénurie, c'est souvent des médicaments qui sont déjà tombés dans le domaine public. Donc, ils sont plus protégés par les brevets. Et donc, ils ne peuvent plus être vendus à des prix élevés. Donc, les multinationales essayent de plus en plus de se dégager de ce secteur-là. La plupart des multinationales aujourd'hui, d'ailleurs, ont scindé leurs activités en deux et créé une société différente de leur activité centrale. Donc, leur activité centrale est basée sur les produits nouveaux qu'ils vont mettre sur le marché, mais la production de génériques ou bien de médicaments qui sont tombés dans le domaine public va être fabriquée par une autre entreprise qui est séparée de la première. Et donc, les multinationales qui ont une obligation quand même, parce qu'une fois qu'ils ont mis sur le marché un médicament et que ce médicament est tombé dans le public, mais que ce médicament est essentiel pour la santé des gens, ils ont normalement une obligation de continuer la production. Mais ils vont réserver seulement la plus petite part de leur machine de productive à ce médicament-là. Parfois, une seule usine. Et s'il y a un problème dans l'usine, c'est fini, on n'a plus de médicament. Et c'est ça qui cause une bonne partie des pénuries.
Ok. Eh bien, il est l'heure déjà de se quitter. J'ai vu que, mais je pensais que c'était à Bruxelles, mais c'est à Verviers que vous faites une rencontre.
Non, j'en fais deux. Hein. J'en fais une à Verviers et une à Bruxelles.
Ah, ok. Oui. J'avais juste vu celle de Verviers.
Celle de Verviers, c'est le 28 février.
Oui.
Et celle de Bruxelles, c'est le 6 mars.
Ok, voilà, il me semblait bien.
C'est à Saint-Gilles.
Et c'est au DECA? Non.
Je pense bien que c'est ça.
Ok, je ne retrouve pas sur le site.
C'est en dessous. Grésea. Ah, pardon.
Attendez. Ah, voilà, ici, effectivement, lundi 6 mars, je n'avais pas été assez loin.
Oui, parce qu'en fait, l'accord s'est fait plus tard avec Verviers. Et donc, c'est pour ça que c'est
venu. Ah, voilà, que c'est venu plus tard. Mais en tout cas, si les auditoristes veulent approfondir le sujet, je les invite en tout cas à se procurer les deux Grésets Éco dans toutes les bonnes librairies et à vous rencontrer le lundi 6 mars